premier vendredi du mois d'avril, 1er avril, Canal Sud, exposition au Dradec. Au Dradec, c'est l'action 115 sur les murs de Canal Sud. Des textes, beaucoup de textes, que des textes, pour arriver à discuter, à parler de cette situation absolument insupportable, on va dire, la guerre actuellement qui est menée en Ukraine. Et surtout pour parler aussi de ce qui se dit ici, en France, des médias, de la propagande, comme on disait, et toutes ces choses-là. Donc, la présentation de l'expo par au Dradec dit ceci, « De dire simplement non à la guerre, dans ce contexte, ne sert à rien, si ce n'est se donner bonne conscience d'avoir fait quelque chose. » L'idée de cette non-expo est d'élargir l'opposition à la guerre en n'oubliant pas que l'OTAN est la machine de guerre. Réfléchir pour imaginer comment on peut collectivement faire face à la propagande capitaliste pro-guerre et pro-armes. De fait, cette manifestation autour d'une guerre dont nous ignorons encore toutes les conséquences est une action au Dradec comme les autres au sujet de la guerre. Une opposition viscérale aux armes, aux armées, aux militaires, aux nationalistes, au patriotisme, aux frontières et toutes les autres conneries. Pour contribuer ou participer, chacun, chacune peut amener des textes, tracts, fanzines, affiches, instruments de musique. Alors il est écrit, entre parenthèses, pas de djembé à cause de son origine russe. Tout support d'expression pour lire, dire ou afficher son opinion sur cette situation que subissent les populations ukrainiennes et russes. Donc c'est ce 1er avril 2022. Le vernissage est en cours. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 40 rue Alfred Duméril. Et si vous avez à dire, à afficher, à présenter par rapport à la guerre. Il faut dire que cette exposition durera tout le mois d'avril et qu'on est parti pour se donner rendez-vous tous les vendredis pour essayer de, bien justement, de modifier... Pardon ?
J'ai une question.
Oui.
Est-ce que pendant le mois, on peut venir et afficher un truc ?
Je pense, si oui, 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 oui.
Alors, on peut arriver la semaine prochaine, je viens.
Elle est modulable. L'expo est modulable. Et tous les vendredis, par exemple, peut-être que au Dradec repensera si ça n'a pas été ajouté au bon endroit pour. Puisque au Dradec est un groupe qui essaie de travailler un peu l'esthétique, hein, un peu l'art
forme,
contemporain. Voilà, c'est ça. Donc, mais chacun est libre, tout à fait. Alors là, pour l'instant, ce qui a été maintenu, il peut y avoir du son. Dans la salle, et des textes. Il n'y a pas d'image. Et c'est un peu une posture intéressante, hein, parce que les images de la guerre ne disent pas forcément ce qu'on voudrait qu'elles disent, quoi. Voilà. Donc, j'ai d'autres textes à vous lire. Et je commence. Voilà, j'y vais. Texte qui n'est pas dans l'expo, donc c'est pour ça, c'est intéressant, hein, à discuter. Biden, Macron et consorts dénoncent, accusent Vladimir Poutine d'être le fauteur de guerre. Certes, il est coupable de l'agression, de la terreur et la désolation semée en Ukraine. Et si l'autocrate de Moscou n'a que faire des peuples qu'il a bombardés sous les silences de l'Occident, Tchétchènes, Kazakhs, tous regardent avec la même duplicité les Kurdes traqués par Ankara, les Palestiniens soumis à l'apartheid par Israël, les Yéménites massacrés par l'Arabie Saoudite. Dans ces sanglantes et macabres parties d'échecs, le sort des peuples se calcule à l'aune des intérêts rapportés. Mais pour les responsabilités, les gouvernements US et occidentaux ne sont pas en reste. Nos hypocrites démocrates, drapés d'humanisme, ne valent guère mieux. Ils ont déjà oublié les Afghans bombardés par les forces US, les Libyens écorchés depuis l'agression de la France couverte par l'OTAN. Ces démocrates se posent en défenseurs de la liberté, des libertés. Mais les libertés qu'ils nous prêtent restent liées aux profits qu'ils engrangent. La période du Covid a illustré leur philosophie en la matière. En France, la bourgeoisie a su faire passer ses lois liberticides et substituer une politique sécuritaire à une politique sanitaire, tandis qu'une minorité voyait ses actions en bourse battre des records. Ils prônent la liberté de circuler, mais là aussi lorsqu'elle est source d'accumulation de profits. Sinon, pour les hommes et les femmes qui fuient les guerres, la misère, alors, des murs se construisent, des barbelés sont tirés et une sélection indécente s'opère entre réfugiés aux frontières de l'Est. Les cadavres flottent en Méditerranée, dans la Manche ou se dessèchent dans les déserts. Ces démocrates en appellent à la paix, à la démocratie, au droit international, mais n'hésite pas à contourner ce droit des peuples. Avec cynisme des puissants, ils piétinent leurs propres accords, leurs propres règles, entretiennent des foyers de guerre, soutiennent des dictateurs qui massacrent des peuples avec les armes que ces apôtres de la paix leur ont vendues. La guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens. Rappelons que même si l'agression russe est à condamner, ce sont les armes, les missiles et soldats de l'OTAN qui sont massés à la frontière de la Russie et non cette dernière qui est allée à la frontière mexicaine. Ce sont la flotte et les avions américains qui sillonnent la mer de Chine et non les bateaux chinois qui patrouillent devant la Californie au large de New York ou auprès des côtes australiennes. Ainsi, chaque camp s'observe, se teste pour savoir à quel moment il pourra rafler la mise. Une mise gorgée de sang des peuples otages. Pourtant, contre la violence de l'agression russe, le peuple, les travailleurs ukrainiens, les travailleuses, résistent tandis qu'en Russie, malgré la féroce répression, le refus de cette guerre aussi laisse apparaître des oppositions qui s'expriment dans la rue. Autant de lueurs d'espoir, de solidarité pour les peuples que les bourgeoisies voudront entraîner derrière leurs étendards patriotiques. Nous devons refuser tout embrigadement. Le combat de classe est ici, dans les pays, contre nos exploiteurs, contre le capitalisme qui porte cette barbarie et cette guerre. Entre ces bruits de bottes, l'inquiétude d'un retour du Covid et une campagne électorale française suinte l'ennui et le vide, qui conduit même des chaînes de télévision à déprogrammer une soirée électorale que le président a déroulé le programme du candidat Macron devant la presse. Macron, le protecteur des peuples. Donc, pour accompagner une telle politique, il faut absolument que l'on sache que le favori, ou peu importe le résultat de cette course à l'Élysée, le match se joue encore et rien n'est jamais gagné au coup de sifflet de fin de match, à savoir le verdict des urnes. Musique.
Un festival de cinéma russe devait avoir lieu à Nantes du 31 au 2 avril, au cinéma Le 14A. Alors qu'il était programmé de longue date, les organisateurs et organisatrices disent avoir été saisis par l'effroi en février 2022, quand les premières bombes russes se sont abattues sur l'Ukraine. Le festival a donc immédiatement affiché le slogan « Non à la guerre » sur son visuel, phrase traduite en russe et en ukrainien. L'organisation a aussi supprimé les moments festifs et rebaptisé le festival entre Lviv et l'Oural, le nom d'une ville de l'ouest de l'Ukraine et une chaîne de montagnes russes. Une dénonciation de la guerre, une démonstration d'amitié entre les peuples sans aucune ambiguïté. Mais cela ne suffisait pas. Dimanche 27 mars, une marche pour l'Ukraine était organisée par une association baptisée Trizub. Le Trizub et le Trident, c'est à la fois le blason de l'Ukraine, mais c'est aussi le nom d'une structure paramilitaire ukrainienne d'extrême droite fondée en 1993, dédiée au collaborateur nazi Stefan Bandera. Structure dont est issu le groupe Secteur Droit, néo-nazi créé en 2013. L'association nantaise Trizub, donc, est allée manifester devant le cinéma 14A pour faire annuler le festival. Le maire de Lviv avait lui aussi appelé à son annulation. Et ils ont tenu gain de cause. L'événement est reporté à une date ultérieure, non connue à ce jour. Dans un communiqué, l'association se désole que la création cinématographique ambitieuse et engagée qui avait été sélectionnée reste inaccessible au moment même où elle aurait pu contribuer à une appréhension intellectuellement fine et aiguisée de l'époque douloureuse que nous traversons. Tout cela pose question. Sommes-nous en guerre contre le peuple russe ? La culture et les créations russes doivent-elles être interdites au nom de la propagande de guerre ? Les artistes russes, qui subissent déjà la répression de Poutine, doivent-ils aussi subir l'interdiction dans nos pays ? Cette annulation s'inscrit dans un contexte délirant. Le pianiste russe Alexander Malofiev est devenu indésirable pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Qui a jugé inapproprié de l'accueillir, alors même qu'il a exprimé publiquement son opposition à la guerre ? Sanctionné parce que des Russes, d'autres virtuoses de la musique ont été annulés. Dans plusieurs pays occidentaux, ici même, on voit des appels à débaptiser un collège Solzhenitsyn, je ne sais pas le dire, ou à boycotter des auteurs classiques russes, Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine, plus globalement, poser la moindre nuance sur le conflit en cours suffit pour être qualifié de traître, voire de soutien à Poutine. Plus stupide encore, des Français ont menacé des restaurants de Poutine, une spécialité québécoise à base de frites. D'autres établissements, notamment des restaurants russes, ont aussi reçu des intimidations et des insultes. Le camp du bien et des gentils, en pleine escalade militariste, utilise des méthodes d'extrême droite. Et encore une fois, les Russes subissent la double peine. Un régime autoritaire chez eux, des pressions ici. Dans le même temps, la campagne qui appelle au BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, contre l'État colonial d'Israël, est interdite et qualifiée d'antisémite et de haineuse par les autorités françaises. BDS n'appelle pourtant pas à boycotter la culture, seulement les produits industriels en provenance des territoires à coloniser. Où mène cette logique ? Il aurait fallu boycotter tous les artistes espagnols durant la dictature franquiste, qui a duré jusqu'en 1975, ou alors des auteurs allemands comme Walter Benjamin ou Stefan Zweig, lorsque Hitler s'est imposé au pouvoir. Et aujourd'hui, faut-il interdire les artistes brésiliens parce que le président du Brésil est un militaire d'extrême droite écocidaire, ou les penseurs turcs parce que Erdogan est un tyran ? Ces réponses sont absurdes, manichéennes, cocardières. À Nantes, une fête des langues réunissant les langues parlées dans notre ville a lieu chaque début d'été. Et les locuteurs et locutrices russes et ukrainiennes y seront bienvenus. La seule réponse aux guerres impérialistes est de faire vivre l'amitié entre les peuples, la création et la culture, et non pas l'inverse.
Paix aux chaumières, guerre au palais. Internationalistes, nous refusons de nous laisser enrégimenter par l'un ou l'autre des deux camps qui ont jeté leur dévolu sur le territoire de l'Ukraine pour s'affronter militairement. Chacun à leur échelle, Poutine, Zelensky, Macron, Biden et consorts ne sont que des courtiers du capital. En affaires un jour, nouant des alliances de circonstances, ils s'empresseront de les renverser au besoin et de s'affronter le lendemain si la protection ou l'expansion de leur zone d'intérêt l'exige. Ce petit jeu se termine toujours mal pour les populations qui en font les frais. C'est à un de ces dramatiques coups de théâtre auxquels nous assistons impuissants depuis peu. Un de ces événements qui, durant tout le XXe siècle, a accompagné au rythme des convulsions du capitalisme les menées impérialistes des États. À tort, les populations de la vieille Europe se croyaient désormais épargnées par les conflits armés. Elles se figuraient les guerres reléguées aux confins des zones périphériques. Pourtant, la dislocation de la Yougoslavie et son partage en zones d'influence sous la pression des puissances impérialistes sonnaient à l'époque comme une mise en garde. abat tous les nationalismes. Que le Kremlin abrite des canailles sanguinaires ne laisse planer aucun doute. Nous sommes conscients que Poutine et sa mafia ne reculeront devant aucune atrocité afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Sa volonté s'accomplira, au prix de la répression des populations qu'il tient sous sa coupe, voire des secteurs de sa propre bourgeoisie qui auraient l'intention d'entraver ses plans. Mais il fait beau voir l'État français donner la leçon à son homologue russe. Entendre Macron, comme avant lui ses prédécesseurs, pontifier sur la démocratie et les valeurs de l'Europe face à un tyran ou à un fou, relève de l'invitation à la rêverie. Il suffit de jeter un coup d'œil, même rapide, sur la politique internationale que mène l'État français en matière de soutien aux dictatures et de commerce des armes pour comprendre combien c'est chez Jean-là, les belles paroles s'envolent dès que se profilent de potentiels intérêts commerciaux ou stratégiques. Il semblerait même qu'une victime civile des pilonnages de l'OTAN en Libye n'ait pas la même valeur qu'un martyr de la guerre en Ukraine. Du moins peut-on le supposer depuis que Natacha Bouchard, la maire de Calais, d'habitude peu réceptive à l'adversité qui frappe les exilés errant aux alentours de sa ville, s'est alors inexplicablement ouverte aux souffrances de réfugiés en provenance d'Ukraine. Guerre de classe. Certains se demandent comment agir ou intervenir en réaction à cette guerre. D'abord, en refusant de jouer les va-t-en-guerre, de tomber dans le piège de l'unité nationale, du poison patriotique, quel qu'il soit. Ensuite, comme d'habitude, en réclamant la libre circulation des personnes, l'ouverture des frontières, de toutes les frontières. Enfin, que le camp des travailleurs et des chômeurs, des travailleuses et des chômeuses, celui des prolétaires, sera le premier et le seul à payer le prix fort de cette aventure criminelle. C'est donc en Ukraine, en Russie, en France et ailleurs, contre nos propres bourgeoisies, que nous devons mener l'offensive. Macron, encore lui, entend nous protéger, dit-il. Lui qui, durant la pandémie, n'a su qu'incarcérer à domicile l'ensemble de la population, dépecer l'hôpital public, promet déjà, s'il est reconduit dans ses fonctions, de nous faire crever au travail. Cette guerre et ses conséquences s'offrent comme un nouveau moyen d'étouffer dans l'œuf toute contestation sociale à venir. Nous devons au plus vite reprendre le chemin de la mobilisation dans les entreprises, dans les quartiers, dans la rue. Nous devons, dans la mesure du possible, tenter d'établir des contacts avec celles et ceux qui, dans les États aux prises dans ce conflit, tentent justement de s'y opposer. En Russie, par exemple, des féministes bravent la répression d'État, constituent l'un des mouvements sociaux les plus actifs. Désormais, elles s'unissent dans la résistance contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. La nécessité d'un nouvel horizon pour l'humanité s'impose avec acuité. Cet espoir ne sortira pas des urnes, ni ici, ni ailleurs, ni demain, ni jamais. Abat la guerre, abat tous les gouvernements. Exigence politique remet la nécessité de la révolution sociale à l'ordre du jour. Ukrainiste, poutiniste, russophobe, otanophile, sinophile, européiste, merdazoviste, poutinolâtre, zelinskiolâtre, Volodymyrophile, Vladimirolâtre. Poutu ukrainiste, supo crétiniste. Pousait-il l'enniscolâtre? Un texte de Jean-Marie Champagne pour l'exposition au Dradec. Aujourd'hui, les féministes sont l'une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant longtemps, les autorités russes n'ont pas perçu comme un mouvement politique dangereux et ont été temporairement moins touchées par la répression d'État que d'autres groupes politiques. Actuellement, plus de 45 organisations féministes différentes opèrent dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-sur-le-Don à Oulan-Udé et Mourmansk. Nous appelons les féministes et groupes féministes de Russie à rejoindre la résistance féministe anti-guerre, à unir leurs forces pour s'opposer activement à la guerre et au gouvernement qui l'a déclenchée. Nous appelons également les féministes du monde entier à se joindre à notre résistante. Nous sommes nombreuses et ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Au cours des 10 dernières années, le mouvement féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et culturel. Il est temps de transformer en pouvoir politique. Nous sommes l'opposition à la guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme, au militarisme. Nous sommes l'avenir qui prévaudra. Nous appelons les féministes du monde entier à rejoindre les manifestations pacifiques et à lancer des campagnes de terrain en ligne contre la guerre en Ukraine, contre la dictature de Poutine, en organisant ses propres actions. En utilisant le symbole du mouvement de résistance féministe anti-guerre dans tous les documents. En propageant les informations sur la guerre en Ukraine, l'agression de Poutine, mais aussi le soutien de l'Ukraine et refuser d'aider le régime de Poutine de quelque manière que ce soit. Il est nécessaire de montrer que les féministes sont contre cette guerre et tout type de guerre. Il est également essentiel de montrer qu'il existe encore des militantes russes prêtes à s'unir pour s'opposer au régime de Poutine. Nous risquons toutes d'être victimes de la répression d'État désormais et nous avons besoin de notre soutien. Résistance féministe anti-guerre, Russie. C'était un texte, donc un extrait, je suis désolée, c'est juste un extrait parce que le temps se termine et que vous êtes bien en direct sur Canal Sud 92.2 et que c'est le premier vendredi du mois d'avril avec le vernissage de l'exposition Audra Deck. C'est l'action 115 Audra Deck et comme vous avez pu l'entendre pendant cette demi-heure, cette action 115 est une action contre la guerre, contre toutes les guerres et aussi contre tous ceux qui les propagent, tous ceux qui les entretiennent, tous ceux qui les préparent, tous ceux qui font et fabriquent les armes et les vendent. Et donc, en effet, il n'y a pas que Poutine comme ennemi et qu'il faut savoir où sont ici en France nos usines d'armement et pourquoi on se vante d'être le quatrième pays exportateur et qui nous avons justement exporté les guerres partout dans le monde. Donc, comme les féministes russes, nous rejoignons cet appel non à la guerre.